RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Aurélien Rousseau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, le patron de la santé en Île-de-France. Ma première question sera directe. Quel est ce matin le taux d'occupation des malades Covid dans les services de réanimation des hôpitaux d'Île-de-France?
Écoutez, ce matin, on a en réanimation 474 malades. Ça veut dire qu'on a passé les 42% d'occupation.
Plus de 42%.
Plus de 42%, mais ce qu'il faut dire aussi par rapport à cet épisode-là, par rapport à la première vague, c'est qu'on a dans le même temps plus de 1480 personnes dans les lits d'hospitalisation conventionnelle. On en a 672 dans les lits de soins de suite et de réadaptation et presque une centaine en psychiatrie. C'est pour ça que j'ai employé l'image, pas pour le plaisir de faire une métaphore maritime, d'une grande marée. Quelque chose qui va doucement.
Elle arrive.
Mais qui arrive et qui est très large. Et comme dans les grandes marées, quelquefois on pense qu'on a le temps. Et en fait, à la fin, il y a une course contre la montre. Et on est à ce moment-là dans lequel on s'engage dans cette course contre la montre.
Là, on s'engage dans une course contre la montre pour ne pas être submergé par cette grande marée, c'est ce que vous nous dites ce matin.
Oui, absolument, parce que ces personnes-là, elles vont se dégrader. Et puis, simultanément, on a des taux et des résultats d'incidence et de positivité. Donc, on a par exemple aujourd'hui à Paris, chez les 20-30 ans, on a plus de 800 cas positifs pour 100 000. Le seuil d'alerte, c'est 50. Et surtout, depuis 3 jours, et c'est là l'alerte qu'on fait, ces chiffres augmentent très rapidement chez les personnes âgées. Ça veut dire qu'il y a du passage entre les générations, et c'est ça qui est notre préoccupation majeure. Et dernier chiffre, sans en abuser, 17% des tests reviennent positifs. C'est un chiffre qu'on n'avait jamais atteint.
17% des tests sont positifs. Bon, on ne l'avait jamais atteint aussi parce qu'on était moins testés.
Absolument.
Aurélien Rousseau.
Absolument. Bon,
mais les patients en réanimation ont en moyenne le même âge que ceux qui étaient en réanimation au printemps.
Aujourd'hui, on est encore 1 ou 2 ans au-dessus du chiffre qu'on avait au printemps, mais tout converge pour se dire qu'en fait, on va avoir à peu près les mêmes critères, et notamment pendant quelques semaines, moi y compris, on pensait que la durée moyenne de séjour serait un peu plus courte, et en fait, aujourd'hui, la durée moyenne de séjour des patients en réanimation, elle est la même que ce qu'elle était au moment du pic tout début avril.
Oui, je lis l'un de vos derniers tweets. Je le lis. Ce qui va se passer dans les 15 jours dans les hôpitaux est écrit. Vous savez ce qui va se passer dans les 15 jours dans les hôpitaux en Île-de-France?
Oui.
Combien d'hôpitaux en Île-de-France, là? Combien de structures?
Aujourd'hui, il y a 200 structures qui sont mobilisées. Moi, oui. 2 fois par semaine, on fait une conférence téléphonique avec oui. tous les patrons médicaux et administratifs de ces oui. hôpitaux pour se préparer. C'est avec eux qu'on a déclenché jeudi dernier
le plan blanc.
Et quand je dis que
c'est
écrit, parce que cette épidémie, elle apprend la modestie, parce qu'il y a plein d'incertitudes, il y a des trucs sur lesquels on s'est planté, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ça, on sait ce qui va se passer dans les 15 prochains jours.
Donc, dans les 15 prochains jours, la marée sera là. Que va-t-il se passer?
Nous, aujourd'hui, on se prépare. On sait qu'on va avoir plus de cas graves. Donc, on se prépare, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a demandé aux hôpitaux d'activer tous leurs dispositifs de crise et d'avoir... Ils ont tous les leviers pour mobiliser les personnels, notamment. C'est un sujet extrêmement lourd. Hein. C'est lourd pourquoi? C'est lourd parce que ça va passer par de la déprogrammation. Ce mot, il fait un peu techno. Déprogrammation, c'est très concret. Vous aviez une opération, une prothèse de la hanche qui était prévue, peut-être même qu'elle était déjà prévue en avril, on risque de devoir la reporter une nouvelle fois. Donc pour les patients, c'est très clair ce que c'est la déprogrammation. Et pour les soignants, c'est aussi, certains d'entre eux leur demander de repousser leur congé.
Vous avez commencé à le faire?
Eh bien, les hôpitaux s'organisent, et oui, ça a commencé à être fait dans certains hôpitaux, en effet.
Donc, rappel de personnel en congé, ou demande au personnel de reporter les congés de la Toussaint.
Absolument.
Par exemple, Je vais revenir sur toutes les mesures, puisque vous, en fait, nous sommes en état d'alerte ce matin, c'est ce que vous dites en Île-de-France.
Oui, on est au sens propre en état état d'alerte maximal et peut-être, et je le prends en partie pour moi, peut-être qu'on n'a pas suffisamment dit ce que ça signifiait. Et il y a un point qui est sûr. En fait, c'est vrai, le virus circule, il a beaucoup circulé chez des personnes jeunes, donc avec peu de cas graves. Mais c'est une histoire, c'est mécanique. Plus il y a de gens contaminés, plus une partie d'entre eux vont faire des formes graves. Jeudi, vendredi, samedi, on a eu 6000 nouveaux cas en Île-de-France. On estime que c'est entre 2 et 5% le nombre de nouveaux cas graves à partir des contaminations. Donc ça veut dire que c'est sans doute jusqu'à 300 personnes par jour dans quelques jours qui vont arriver dans les hôpitaux d'Île-de-France.
Mais il y a une forte donc augmentation du nombre de cas, mais il n'y a pas une forte augmentation du nombre de décès. Pourquoi ?
Aujourd'hui, on est sur une situation qui est toujours un peu difficile à expliquer. Ce qui se passe à l'hôpital, c'est ce qui s'est passé il y a 3 semaines en termes de contamination. Il y a 3 semaines en termes de contamination, on était sur un plateau, plateau montant, légèrement montant. Et donc aujourd'hui, le nombre de cas à l'hôpital et donc le nombre de décès, il augmente doucement, même si hier, par exemple, on a pris quand même une quinzaine en solde de patients en réanimation. Et ce qu'on sait, c'est pour ça, encore une fois, que je dis que c'est écrit, c'est
donc,
que...
Plus 15
hier, et on sait que la situation depuis 3 jours avec des contaminations qui se sont nettement accélérées va faire mécaniquement, c'est pas une modélisation.
Mécaniquement, il va y avoir de plus en plus de patients en réanimation et donc de plus en plus de décès.
Absolument. Mais les décès, par ailleurs, c'est vrai qu'on les voit peu, mais vendredi, c'était 18 décès en Île-de-France. C'est 18 personnes qui sont mortes du Covid. Ça existe
et ce week-end
encore. Ce week-end, j'ai pas encore les chiffres et je fais toujours attention le plus possible à donner les chiffres quand je les ai. Donc, on fait le point tous les jours et on adapte tous les jours en fonction de ce qu'on apprend.
Alors, est-ce que de nouvelles mesures de privation de liberté doivent être prises ?
Moi, je pense d'abord, et je vais répondre à votre question, je pense d'abord que peut-être qu'on doit encore progresser pour comprendre que on a ça entre les mains quand même. Ce week-end, je passais dans le 19e, autour de chez moi, et je voyais des gens en terrasse, attablés. Alors, c'était sans doute un restaurant, ils avaient le droit d'être là, le droit, administrativement parlant. Je suis allé parler à 2-3 d'entre eux, et j'ai eu cette réponse à 2 reprises qui m'a un peu étonné. On m'a dit, mais si c'était vraiment dangereux, le gouvernement l'aurait interdit. Et je dois dire que de ce point de vue-là, il me semble que pourtant c'est clair, c'est aussi une partie de responsabilité individuelle. Il faut qu'on comprenne que plus on se contamine, même si on est jeune, même si on est en bonne santé, plus le risque de toucher des personnes qui, elles, sont fragiles, augmente.
Alors, vous rencontrez le conseil scientifique tout à l'heure, vous allez faire des recommandations, évidemment, au gouvernement, le conseil scientifique, nous verrons quelles seront les décisions prises par le gouvernement. Mais compte tenu de ce que vous dites, de nouvelles mesures de privation de liberté sont inéluctables.
Aujourd'hui,
Aurélien Rousseau,
c'est ce qu'on fait depuis 6 mois. C'est-à-dire que on a les mesures, on essaie de les mettre en œuvre jusqu'au bout. C'est pour ça que j'appelle ça une course contre la montre. Je pense qu'il y a encore des réactions citoyennes à faire et on planifie toutes les hypothèses. Toutes, et c'est un spectre extrêmement large.
Reconfinement possible en Île-de-France ?
Depuis le départ,
Aurélien Rousseau,
on met tout sur la table. Et donc, moi, par ailleurs, cette crise, elle apprend à chacun un peu à rester à sa place. Moi, je ne suis pas ministre, je ne suis pas...
Non, ce n'est pas vous qui décidez.
Voilà, je le dis, toutes les hypothèses, on est obligé de préparer toutes les hypothèses. Et en même temps, tous les jours.
Donc vous préparez un possible reconfinement, vous préparez un possible couvre-feu, comme c'est le cas dans plusieurs villes européennes.
On regarde ce qui se fait ailleurs.
Voilà.
Et de toute façon, une mesure, elle n'est pertinente que si elle répond exactement à ce qu'on voit en termes de contamination, en termes de risque, et que si aussi elle est acceptable, compréhensible par la population, parce qu'on le voit bien, s'il n'y a pas une mobilisation des citoyens, tout ce qu'on peut faire, en fait, sera beaucoup moins efficace. Donc c'est à ce prisme-là, mais notre responsabilité, c'est de toujours en permanence avec les préfets, dans le dialogue avec les élus, à regarder ce qu'on pourrait faire si la situation se dégradait.
Donc des décisions seront prises dans les heures ou les jours qui viennent, là, de nouvelles décisions.
Tous les jours,
évidemment.
Il y a des discussions qui évaluent la situation.
Il faut s'attendre peut-être à des restrictions si ça continue à progresser. Parce que l'épidémie progresse en Île-de-France, comme elle progresse dans d'autres villes de France, dans d'autres métropoles, même s'il y a quelques... D'ailleurs, Comment se fait-il qu'à Marseille, ça aille mieux, selon vous? Vous avez discuté avec l'ARS, j'imagine,
absolument.
Le patron de la santé dans les,
il y a des
la
éléments
Provence
positifs.
Alpes-Côte d'Azur.
Je crois qu'y compris hier, il y a eu à nouveau une petite flambée d'arrivée en réanimation à Marseille.
Ah
donc
bon,
il faut
à Marseille,
toujours,
de nouveau.
Il faut toujours être extrêmement prudent. Et puis par ailleurs, c'est un peu comme sur les mesures. Hein. Ceux qui sont aujourd'hui capables d'expliquer avec aplomb toute la dynamique de cette épidémie en France, en Europe, ou la pertinence des mesures, il n'y a pas ni d'explication miracle, ni de remède de miracle, il y a de la bataille pied à pied, chacun dans nos responsabilités. Et nous, autorités publiques, on est en responsabilité, mais chacun des citoyens aussi. Et c'est pas une histoire de culpabiliser ou de faire peser sur les gens. C'est au fond assez simple. On essaye de dire les choses et en disant à chacun ce qu'on peut faire pour lutter collectivement.
Bon, alors on va dire les choses, Aurélien Rousseau. Tester, tracer, isoler, c'est la politique appliquée. Qui n'est pas toujours une réussite. On teste, c'est vrai qu'on teste de plus en plus. D'ailleurs, les tests antigéniques, c'est pour quand ?
On a commencé à déployer des tests antigéniques à une
Alors,
échelle.
Je rappelle que c'est un prélèvement le même que le PCR, mais c'est un résultat en moins de 30 minutes.
Absolument, c'est un test, donc on a commencé, on en a déployé 100 000 en Île-de-France. Là, par exemple, depuis quelques jours, on a fait dans 80 EHPAD de la région pour tester comment ça marche, parce qu'il faut mettre en place les process. On a fait la semaine dernière en PCR plus de 253 000 tests avec... Il y a encore des points noirs, personne, ça sert à rien de le nier. Mais on est passé en dessous de 40 heures en moyenne pour la remise du résultat, ce qui est un point important. Et par ailleurs, le système, il est effectivement pas infaillible, mais il nous protège quand même. On n'a pas eu de cluster critique.
Mais pourquoi tant tester? C'est ce que le public ne comprend pas, Aurélien Rousseau. Pourquoi tant tester alors qu'on tarde à obtenir les résultats? Vous l'avez dit, on raccourcit les délais, mais parce qu'après, il faut tracer. C'est vrai, tracer. Or, pas terrible, il n'y a pas assez d'enquêteurs. On est un peu débordé, justement, par le nombre de tests positifs.
Moi, je suis pas d'accord avec vous sur ça.
Ah bon, d'accord. Bon,
non, mais je le dis simplement, c'est une politique de prévention.
Oui.
Plus on arrive à savoir qui est positif, plus on arrive à convaincre les gens de respecter l'isolement, de se mettre à l'isolement, plus on va casser des chaînes de contamination, limiter des contaminations. C'est pas une politique qui fonctionne à 100%.
Mais l'isolement...
Moi, chaque jour, j'ai une centaine de collaborateurs de l'agence de santé, des milliers de collaborateurs de l'assurance maladie qui remontent, qui font ces enquêtes, qui appellent des gens pour les convaincre. Et ça, c'est autant de gens qui n'auront pas contaminé d'autres. Est-ce que c'est infaillible? Bien sûr que non. Est-ce que ça a ralenti la progression de l'épidémie? Oui.
L'isolement, certains ont peur de perdre leur travail, vous le savez. D'ailleurs, tiens, j'ai une question à vous poser. Dans les hôpitaux, est-ce que des soignants positifs au Covid travaillent ?
Non, dans les hôpitaux.
Non.
Dans les hôpitaux en Île-de-France, des soignants positifs au Covid ne travaillent pas. Par contre, des soignants qui seraient sujets contact, qui donc, quand on est une personne lambda qui n'est pas sur un service essentiel, sujet contact, donc devrait rester à l'isolement, on les autorise, je mets des guillemets parce que y compris on leur demande de venir en portant un masque, évidemment avec toutes les mesures de protection. C'est un protocole qu'on a mis en place dès le mois de mars, mais aujourd'hui c'est ça la règle qui est appliquée en Île-de-France.
Aurélien Rousseau, y a-t-il aujourd'hui en Île-de-France plus de lits d'hospitalisation qu'au printemps?
Aujourd'hui, en Île-de-France, on continue à être sur les 1200 lits de
réanimation. Donc pas plus qu'au printemps.
Et on déclenchera des lits complémentaires grâce à la déprogrammation.
Oui, mais grâce à la déprogrammation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de lits de réanimation aujourd'hui qu'au printemps en Île-de-France.
Un lit de réanimation, Jean-Luc Bourdin, c'est pas juste un sommier et un matelas.
Non, c'est un personnel aussi.
C'est des respirateurs.
Des machines.
Des médicaments, des équipements de protection
et du personnel.
Sur les trois premiers points, on a vraiment, depuis le printemps et depuis la première vague, franchi une étape, on est prêt. Mais en effet, la tension sur le personnel, maternelle, elle est extrêmement forte. On ne forme pas une infirmière et a fortiori un médecin en quelques mois, mais pour vous donner cet exemple, l'assistance publique hôpitaux de Paris, on a recruté 500 infirmiers de plus depuis le printemps. C'est pas encore assez. On n'a pas, et c'est pas une question de fric pour dire les choses simplement.
Oui, mais 500 de plus, oui, mais d'autres sont partis, d'autres ont démissionné.
Oui.
Aurélien Rousseau. Alors, ma question, y a-t-il plus de personnel soignant aujourd'hui qu'au printemps dans les hôpitaux de l'Île-de-France ?
Oui. Aujourd'hui, il y en a plus. On est arrivé au niveau où on était en septembre 2019. De septembre 2019, parce que la crise du Covid, c'est pas une tempête dans un ciel calme. Tout le monde le sait. L'hôpital, il était en crise. L'hôpital était en tension. Il y avait des mouvements sociaux. Il y avait, en Île-de-France en particulier, un nombre de postes vacants extrêmement élevé. C'est pour ça que je dis que c'est pas une question d'argent. C'est une question d'arriver à recruter, à fidéliser. Et à attirer. Les personnels.
Ben, bien
et
sûr.
Là, donc, on est mieux que ce qu'on était en mars dernier, mais on n'est évidemment pas encore, il y a encore des centaines de postes vacants. Sur les infirmiers, je prends juste l'assistance publique hôpitaux de Paris, il reste encore 500 postes vacants, et notre bataille, c'est de...
Vous allez embaucher, vous voudriez embaucher combien de personnes?
Ben, aujourd'hui, je vous dis, l'assistance publique hôpitaux de Paris, il en faudrait 500, à peu près pareil sur les autres hôpitaux de la région, et après, c'est aussi le rôle de l'Agence Régionale de Santé, c'est que ça soit pas une concurrence entre les établissements, parce que le jour J, je reprends ces chiffres, qui a pris en charge les malades en Île-de-France? 40% l'assistance publique, 30% les hôpitaux généraux publics ailleurs, et ensuite le privé qui a été extrêmement mobilisé.
Là, le privé, actuellement, est-ce que le privé va être mobilisé et déjà mobilisé?
D'ores
et déjà, le privé accueille des malades Covid?
D'ores et déjà, le privé est très mobilisé. On a, dans les lits de réanimation, 24% des malades sont dans le privé. Donc, d'ores et déjà, le privé est mobilisé. Mais je le disais, c'est un peu la particularité de cette phase de rebond. C'est qu'il n'y a pas que les réanimations. La pression, et les médecins et les soignants nous le disent beaucoup, elle est beaucoup dans des lits d'hospitalisation conventionnelle, où on doit pousser
les murs pour accueillir des malades. Et là aussi, il faut un encadrement. 40% des infirmières et infirmiers du public ont envie de changer de métier. Vous avez vu cette enquête de l'ordre des infirmiers.
Ne vous inquiétez pas. Ah, mais bien sûr que si, ça m'inquiète. Ça m'inquiétait avant la crise du Covid.
Oui.
Il y a eu depuis des annonces extrêmement fortes qui ont été faites. C'est pas des annonces dans le vide. Il y a eu déjà un effet sur la fiche de paix, comme on dit en septembre, avec déjà une première augmentation. Il y en aura une deuxième en mars. Est-ce que ça suffit? Bien sûr que non. On a des tas de mesures à prendre. Il y a 8 milliards d'euros qui seront mis chaque année en plus sur l'hôpital, et notamment l'hôpital public, mais à court terme. Et les témoignages sont bouleversants quand on lit les témoignages des soignants.
Bien sûr.
Sont bouleversants sur ce qu'ils ont vécu. Et c'est vrai que c'est pour ça que quand on dit à nos concitoyens, respectez les gestes barrières, limitez vos interactions sociales, c'est pour les soignants.
On est moins prêts, on est plus prêts techniquement à accueillir cette deuxième vague, mais est-ce qu'on est moins prêt humainement à l'accueillir?
Non, je pense qu'on est plus...
Parce que quand je lis, je suis inquiet, tout le monde est inquiet, quand on lit les déclarations des infirmiers, des infirmières, des médecins qui accueillent des malades et qui disent on est épuisés moralement, on n'y arrivera pas.
Mais évidemment, moi je suis inquiet et par ailleurs c'est bouleversant ces témoignages.
Oui.
Donc si je dis qu'on est plus prêt, c'est parce que par ailleurs on connaît mieux le virus, on connaît mieux les thérapeutiques, on sait mieux prendre en charge, on sait mieux adapter. Mais évidemment, le poids du sujet ressources humaines est fondamental. Et donc c'est pour ça que ce sont les mêmes soignants qu'on applaudissait tous les soirs.
Oui.
Et moi, c'est pour ça que je dis à nos concitoyens, mais je le dis et je me mets dedans, réduire nos interactions sociales, c'est quoi? C'est mercredi soir, j'avais un dîner avec des amis qui étaient prévus depuis des mois parce qu'ils passaient à Paris. Eh ben, ça fait mal, mais on l'annule parce qu'on sait que sinon, on va faire courir un risque. Ces amis, ils sont jeunes, ils sont plutôt en bonne santé, donc on peut se dire, après tout, c'est pas grave.
Oui.
Mais en fait, si, ça fait courir un risque complémentaire. C'est ça. Et ça, c'est pour les soignants. C'est évidemment pour les malades, mais pour les soignants qu'on doit faire ça.
Les EHPAD sont prêts?
Les EHPAD, je pense, sont eux aussi plus prêts.
Avec un protocole sanitaire extrêmement strict.
Aujourd'hui, on a, en Île-de-France, il y a 700 EHPAD, il y en a 127 dans lesquels il y a au moins un cas de Covid, donc ce sont
127 sur 700.
Ouais. Et ça, depuis plusieurs semaines, le chiffre ne bouge pas. Et là, il
ça
faut aussi
pas.
Rendre vraiment un coup de chapeau. On parle souvent des soignants à l'hôpital. Il faut parler des soignants et des personnels administratifs dans les EHPAD qui font un boulot extraordinaire. Et donc, nous, notre boulot, c'est qu'il n'y ait aucun huis clos, qu'on les aide autant qu'on peut pour les accompagner dans cette période.
Je termine avec la campagne de vaccination contre la grippe qui commence demain. En Île-de-France comme dans toute la France, qui commence demain. Est-ce qu'il ne faudrait pas rendre ce vaccin obligatoire pour les personnels de santé ?
Aujourd'hui, nous, notre conviction, c'est qu'il faut convaincre. Il y a une très forte attente de ce vaccin. On commence la vaccination. Je suis sûr que le pourcentage de vaccination va faire un bond cette année. Mais
Des doses supplémentaires,
il y en a.
Vont être mis à disposition.
Il y en a par rapport à l'an dernier.
Oui.
Et on est toujours, comme toujours en France, entre est-ce qu'il faut obliger ou est-ce qu'il faut convaincre. Nous, on pense que on peut convaincre encore les personnels, tous les personnels. Je veux dire, par exemple, à l'EHPAD, la vaccination, elle est très forte et je suis certain qu'elle sera encore plus forte cette année.
Merci Aurélien Rousseau d'être venu nous voir, le patron de la santé en Île-de-France, le patron de l'Agence régionale de santé. Merci. 8h54.